Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe. Bonjour, et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On se retrouve aujourd'hui pour aller découvrir un lieu qui s'appelle les Moulins de Paillard. Ce lieu est situé en région des Pays de la Loire, à Poncé-sur-le-Loire. Nous allons traverser la région depuis Nantes pour aller découvrir ce lieu qui est devenu une association. Gérée par Shelley De Vito et James Porter, ils vont pouvoir nous présenter l'association ainsi que la salariée Pauline Burnier. Nous allons être accueillis par Shelley De Vito qui va nous présenter le lieu. Et puis on discutera avec Pauline de ses missions dans l'association et des différentes activités qui y sont menées. Après la présentation du lieu et de son histoire, ainsi que du projet associatif Les Moulins de Paillard, qui est un lieu à la fois de patrimoine, ancien moulin et ancienne papeterie, ancien lieu industriel reconverti en accueil d'art contemporain. Nous irons découvrir l'exposition Flinch proposée par les Moulins de Paillard du 7 septembre au 20 octobre 2024. Cette exposition présente le travail de Francis Alice, Béatrice Balcou, Éric Baudelaire, Katinka Bock, Tacitadine, Werner Herzog et Walid Rad. Après l'exposition, nous assisterons à une conférence proposée par Shelley De Vito qui a la thématique « À travers les yeux des vieux loups de mer » qui, pour les Journées du patrimoine, se tourne vers les océans et les cieux. Des phénomènes dont parlent les navigateurs sont explorés dans les œuvres de Tacitadine. Une journée bien chargée à la découverte des Moulins de Paillard. C'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc on vient d'arriver au Moulin de Paillard, situé à Poncé-sur-le-Loire, à la bordure de la région des Pays de la Loire. Et on va être accueillis par Shelley De Vito et James Porter, qui vont nous accueillir pour la journée parce qu'aujourd'hui on est le 21 septembre et on est là pour les Journées du patrimoine. Il y a le lieu qui ouvre et qui propose aussi une exposition qui s'appelle Flinch et qui présente le travail de plusieurs artistes, mais Shelley va nous en parler plus amplement. Et on rencontrera aussi Pauline Burnier, qui est la salariée de l'association Les Moulins de Paillard. Allez, c'est parti. Donc je vois Shelley qui est juste ici. Bonjour Shelley.
Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, merci de m'accueillir, il fait super beau, c'est très agréable. Donc là, on est au début de l'ensemble des Moulins de Paillard, c'est très grand, c'est une vaste propriété. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu du projet, parce que c'est un projet à la croisée de l'art contemporain et du patrimoine. Donc si tu veux bien nous présenter un peu l'historique du projet, vu que tu es à l'origine avec James, et voilà, pour qu'on comprenne un petit peu comment tout ça s'est ficelé, pour arriver jusqu'au centre d'art aujourd'hui. Je te laisse la parole.
Merci. En effet, donc, un projet assez énorme. On a créé ce projet en 2009 dans ce lieu, pour ce lieu. C'est une sorte de campus. Il y a beaucoup de bâtiments. C'était un lieu laissé à l'abandon. Donc, du coup, il y avait vraiment beaucoup à faire. Il y a toujours énormément de choses à faire. L'histoire, il y a vraiment énormément de choses à dire de comment on est arrivé là. Mais disons que depuis 2010, on est un lieu qui accueille en résidence des artistes du monde entier et des artistes de la France et de la région. Et on a chaque année au moins une, deux, voire trois expositions de grande taille parce qu'effectivement, on a 9 salles d'exposition, à peu près 500-600 mètres carrés en plus de théâtre qui est à peu près 300 mètres carrés. Donc tout ça, c'est dans une ancienne papeterie du 18e siècle qui, comme j'ai dit, c'était un lieu de production qui avait besoin d'amour. Et grâce à un projet associatif, on arrive à vivre et faire vivre ce lieu. Après, ce qu'on fait, donc l'idée dans un lieu si patrimonial était de faire venir les arts, les pensées contemporaines, les arts contemporains, que ce soit des arts visuels, de la danse, de la musique, les architectes viennent, des commissaires, des écrivains, écrivaines. Tout est là pour la recherche. Évidemment, si on a choisi de faire ce projet dans un lieu patrimonial, c'est parce qu'on puise énormément dans l'histoire, que ce soit l'histoire de l'art, mais l'histoire en général, les sciences, pour créer aujourd'hui et pour aider justement comment on peut la société d'avancer sans nier les avancées et le progrès on peut dire du 20e siècle qui disparaît vite devant nos yeux. Souvent, on revendique beaucoup de progrès qui étaient déjà faits et on essaie de toujours inventer, mais pas de réinventer la roue. On travaille avec ce qui existe. Et là, c'est ce qu'on voit dans ce lieu où il y avait beaucoup de changements, des changements, je dis, assez néfastes pour le bâti, mais c'était forcément voulu à un moment donné quand c'était un lieu de production industrielle. Nous, on est là pour une production créative, un travail justement sur le terrain, un travail énorme avec les écoles, avec les structures locales et, comme j'ai dit, aussi à l'international. On est dans un village d'à peu près 350 personnes, donc effectivement, c'est très important qu'on soit sur le terrain, comme les gens disent. Il y a depuis 15 ans, des jeunes ont appris d'être à l'aise dans des lieux d'art contemporain et ce n'est pas toujours le cas, même pour les adultes. Donc on essaie de rendre accessible ce que doit être accessible à tout le monde.
Très bien, merci pour cette présentation générale du lieu que vous occupez. Du coup, moi je suis un peu curieuse de comment... Déjà, tu t'as présenté effectivement les activités, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi et sur James en tant que personne? Qu'est-ce que vous faites? Et puis aussi, comment vous êtes arrivé là? Quelle est la petite histoire de la rencontre avec ce lieu?
Okay. Donc, effectivement, vous entendez que je ne suis pas sartoise d'origine. James et moi, on est en France depuis des années, malgré cet accent, et on était parisiens pendant des années. Et puis là, à travers des productions, maintenant je parle de nos productions artistiques à nous, ici dans ce lieu, les Moulins de Paillard, on n'est pas là pour nos propres œuvres. C'est vraiment l'idée d'accompagner des artistes émergents comme confirmés dans la production, dans la diffusion de leur travail, avec la résidence d'artiste, bien entendu. Donc là, à l'époque, on était surtout sur nos propres projets et on était un peu à droite, à gauche, en Europe avec les projets. Et les gens nous ont encouragés de nous enraciner avec un lieu. Pour nous deux, on était toujours fascinés par le patrimoine. Évidemment, on n'a pas un patrimoine pareil à New York. Et on allait, même notre première rencontre avec James, il y a des siècles, était autour d'une restauration d'un bâtiment. Donc là, quand on cherchait un peu en Europe un lieu qui avait besoin d'amour, on est tombé par hasard total, parce qu'on ne connaissait rien de la Sarthe. Juste pour vous dire l'anecdote, c'est quand même, je pensais qu'on allait passer un week-end en Sarlat, dans la Dordogne. Mais c'était la Sarthe et je ne connaissais pas à l'époque. Et là, on est tombé sur un autre lieu patrimonial qui s'appelle la Rotonde. Et c'est une rotonde de la SNCF qui allait être rasée. Et nous, on a mis une proposition pour l'acheter parce que le prix était 8 000 €. 8 avec 3 0. Et on s'est dit, même nous, on va trouver des moyens pour acheter ce lieu et le sauver. C'était pas nous qu'ils avons sauvé le lieu parce que notre proposition était refusée, et tant mieux, parce qu'on n'aurait jamais pu faire ce que nos cousins à l'autre bout de notre territoire font. Ils ont pu, grâce à Dr. Lebouc, ils ont acheté un bâtiment. J'ai dit nos cousins, juste parce que quand on est arrivé ici, et c'était déjà après cette proposition pour le Rotonde, et sans qu'on le sache, notre dossier a voyagé. Mais apparemment, il y avait à la une d'un journal local, des riches Américains vont acheter le Rotonde. Et bon, on rigole aujourd'hui, mais on commençait à recevoir des appels, des emails pour dire que merci, vous avez sauvé le Rotonde. Maintenant, est-ce que vous aimeriez sauver le château de Poncet ou un endroit à Juppy? Et je ne connaissais pas du tout ces endroits. Donc je me suis dit, oh là là, les gens pensent qu'on peut faire une chose pareille. Et à la fin, peut-être un peu, oui, parce que la communauté de communes à l'époque qui s'appelait Val-du-Loir avait ces bâtiments des Moulins de Paillard. Ils nous ont proposé de regarder ici le château de Poncet et puis aussi un silo. Et on est tombé tout de suite sous le charme de ce lieu abandonné qui est aujourd'hui plein de vie. Donc voilà, après, oui, James vient des arts visuels, moi je viens de la scène, mais ça, peut-être ça entre dans notre façon de construire ici. Surtout peut-être, c'est le rapport avec les artistes qui viennent et aussi les visiteurs et les scolaires. On est direct, contact direct, il n'y a pas... Tout le monde nous voit, on dit schlepp en anglais, mais en yiddish, mais toujours en train de porter des choses. On est toujours avec des saletés de bâti sur nous et à quatre pattes avec les enfants et tout ça. Et l'idée, c'est que quand même, si on va habiter un lieu, comme on aime dire à nos jours, il faut l'habiter.
Donc vous revenez ici régulièrement, tout le temps?
On est prisonnier de notre lieu, en fait. On est prisonnier, oui, oui. On est jamais... Justement, vous avez dit au début qu'on ouvre pour les journées de patrimoine. En fait, nous, on est un lieu qui est ouvert tout le temps. Donc, c'est un week-end presque calme pour nous par rapport aux autres, parce que où il y a des endroits privés à... Bon, c'est un domaine privé ici, il faut le savoir. Et maintenant que notre association est amphithyote, on ne peut pas changer le nom d'un domaine privé. En revanche, ce qu'on fait depuis 15 ans, c'est qu'on ouvre au public un endroit soi-disant privé. Et ça, c'est à travers les actions culturelles et pédagogiques aussi.
Et donc, vous décidez de créer une association avec un bureau. Et vous êtes les bénévoles membres de cette association, mais un bureau dirige. Et vous avez aussi ouvert un poste. C'est ça,
oui,
l'historique.
Donc en 2009, on a créé l'association. Comme pour beaucoup d'associations, c'était moi, résidente, James, vice-président, parce qu'on savait qu'on allait être bénévole pendant longtemps. Et d'ailleurs, justement, le mot volontaire est vraiment ça. Nos postes qui ne sont pas encore créés, proprement dit, on est directeur et directrice artistique. Maintenant, oui, le bureau. Donc, après les deux premières années, on a fait appel à quelques autres personnes pour élargir l'association. Maintenant, l'association, il y a une cinquantaine de membres adhérents de l'association. Et puis, le bureau s'est élargi. Il y a 19 sièges maintenant, dont des tutelles et une présidente, je trouve, assez extraordinaire, qui s'appelle Joëlle Saint-Frax.
Très bien, merci pour toutes ces informations et ces explications. Donc là, vous avez créé un lieu donc dédié effectivement à l'art contemporain, mais vous êtes aussi dans une démarche de conservation et de rénovation du bâti. C'est immense. Le lieu fait combien de mètres carrés?
On est en bâti à peu près 6000 mètres carrés. Avec des bâtiments différents, il y a le bâtiment principal qu'on appelle le moulin, bien que les moulins n'existent plus. Il y a la résidence d'artistes, la maison de compagnons qu'on aimerait réhabiliter pour la résidence d'artistes aussi, parce que la résidence actuelle est très très petite. On a pas mal de compagnies de danse qui viennent, des ensembles musicaux, donc on a besoin de plus de place. Il y a deux pavillons où on imagine faire l'accueil, une sorte d'endroit pour nos salles de lecture, parce qu'il y a toujours énormément de livres ici. on a les dépendances où on prête une salle pour les scolaires pour qu'on puisse avoir les vélos. La municipalité a pu supprimer un quart par semaine parce qu'on a la voie verte qui passe devant maintenant. Et ça, c'est formidable parce que ce que je vous ai dit ce matin, c'est avant, j'étais à vélo pour aller 25 km et il n'y avait pas la voie verte. Donc, du coup, c'était assez cruel de passer à côté des camions ou le camion qui me passait plutôt. Après, on a les jardins. Donc là, il y a les chiffonnières. C'est un jardin de teinture. Et on a beaucoup de projets, y compris un inventaire du patrimoine de la flore qu'on a commencé cette année. Parce qu'effectivement, le patrimoine pour nous, ce n'est pas seulement les bâtis, mais la nature. On est directement sur le Loir. On a vu depuis des années le manque d'attention, en fait. Quand on est arrivé ici, on a constaté la pollution, les habitudes de jeter dans la rivière. Et quand même, c'était en 2010, c'était pas comme si c'était le Moyen-Âge, mais il y avait vraiment des choses à prendre en main. Et on essaie de, à travers les actions pédagogiques, les chantiers participatifs, de proposer d'autres façons de faire. Et évidemment, on est à la base des artistes, donc on apprend en faisant. Comme beaucoup de personnes. Donc, on n'est pas maître de tout, mais on essaie de faire appel aux personnes qui savent, qui peuvent transmettre. Et puis, de notre côté, on transmet. Oui, donc les bâtiments, comme le bail est arrivé très, très tardivement dans ce projet, ça, c'est un peu l'histoire que beaucoup de personnes connaissent et que les promesses ne sont pas toujours honorées. Et on a dû donner vraiment énormément de nous-mêmes pour essayer de sauver les bâtiments. Et donc, c'est un développement très long. On est très inspiré par le travail de Patrick Bouchard, justement, qui nous guide énormément au moment de blocage, de comment faire avec l'existant. Là, on lit son travail depuis des années et on fait appel à ses conseils parce qu'il y a des moments où on ne comprend pas, effectivement. Non pas parce que c'est une question de langue, mais si, quand même, mais pas la langue française. C'est juste quand il y a des façons différentes de voir, de faire. Et donc, on essaie vraiment de forger des nouveaux chemins à partir des obstacles qui sont devant nous. Donc, Patrick Bouchard, c'est un architecte qui est bien connu à Nantes, le lieu unique et la Friche de Belle-de-Mai. Il fait énormément de choses. Il est sollicité tout le temps. Mais dans ses écritures, dans ses actions, il y a vraiment cette idée de faire avec l'existant, de prendre l'inventaire de ce qu'il y a autour de soi et de travailler avec ce qu'il y a. Oui. Et donc, c'est très inspirant.
Et donc là, en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Flinch, mm-hmm. avec des artistes. Est-ce que tu peux nous en parler, nous citer les artistes que vous avez invités, mm-hmm. parce qu'on n'en a pas parlé, mais aussi vous travaillez par un système d'invitation et de programmation, pas d'appel à projet. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent vos invitations.
Oui.
Bon, je te laisse mm-hmm. en parler.
Flinch, donc c'est une exposition, le cinquième volet dans l'anthologie de l'éternement de Fred Haute. C'est une anthologie qu'on a créée en 2014, il me semble, avec une exposition des œuvres filmiques de Richard Sarra. Et c'est un moment où on saisit ce que n'est pas censé durer, on va dire comme ça. Et oui, la résidence d'artiste ici est souvent une résidence de production qui nourrit la programmation, mais pas que. Les artistes viennent ici sans avoir la pression de créer, mais souvent ils veulent créer pour une exposition ou pour un spectacle, une composition. Là, Flinch est différent de beaucoup de nos expositions parce qu'il n'y a pas une production pailleur, ne serait-ce la scénographie et évidemment le commissariat. Les artistes à qui on a fait appel, donc si on fait dans l'ordre, Walid Rad, On a travaillé avec une structure qui l'a cofondée, qui est l'Institut arabe pour les images. Et ça, c'était il y a quelques années. En fait, on a fait appel aux artistes. On est fans depuis des années. Et on était ravis d'avoir les réponses positives. On était même, je peux vous dire, étonnés. Mais je crois que la proposition est juste. Et donc, Walid était parmi les 7 artistes à qui on a proposé cette exposition. Après Walid Rad, il y a Béatrice Balcou, une artiste française basée à Bruxelles. Il y a Francis Alice, qui est basée au Mexique. Il y a Tacita Dean, une artiste anglaise qui est entre Berlin et Los Angeles. Il y a Werner Herzog, donc cinéaste allemand. Katinka Bock, on a déjà eu une exposition en 2012, il me semble, avec Katinka et Guillaume Leblanc. Avec la galerie Jocelyn Wolf, on travaille beaucoup avec cette galerie. Il y a vraiment des propositions très chouettes et une façon de faire admirable. Et puis après, il y a Eric Baudelaire, et ça c'est avec le FRAC Auvergne. Eric aussi, on suit depuis très longtemps son travail, et la pièce Sugar Water, ça fait partie de nos souhaits depuis des années.
Parce que c'est quand même assez surprenant d'arriver dans un lieu en Sarthe.
Vous pouvez les dire nulle part.
Non, mais qui est dans un milieu rural et qui est quand même. Et les noms qu'on voit dans cette exposition, c'est plutôt on les voit plutôt à Paris d'habitude. Du coup, comment vous travaillez ? Enfin, tu viens d'en parler avec les galeries, etc. Mais même ne serait-ce qu'en termes de conservation d'œuvres.
Notre choix d'œuvre est en effet pour prendre en compte la hostilité, entre guillemets, de notre lieu. Parce qu'on est sur la rivière, donc il y a un taux d'humidité assez important. En plus, il ne fait pas toujours beau comme aujourd'hui ici. Mais, et aussi, ce lieu, les endroits où on accroche, où on installe, on fait ça vraiment avec beaucoup de soin. Après, notre propos aussi, c'est notre souhait, c'est d'avoir des artistes émergents à l'affiche avec des artistes confirmés. Et là, on a vu ça il y a des années avec une belle exposition avec des commissaires invités. Il y avait Peter van der Schaaf qui exposait à côté de Tatiana Trouvé. Et pour lui, c'était un privilège, bien sûr, pour nous aussi, d'avoir tous les artistes qu'on accueille. Mais on essaie de montrer la force dans la création émergente. Après, comme j'ai dit, on était ravis de savoir que ces galeries de grands renommés sont très, très ouvertes à ce genre de travail. J'avoue que c'est aussi parce qu'on est rigoureux. Et ce rigueur, je crois, ça se sent, ça se voit. C'est pas un secret, les gens savent qu'on est acharné, on dort peu, et c'est vraiment tout le temps, l'artiste et l'œuvre d'abord. Je dis d'abord, évidemment, l'accueil du public, c'est énorme, mais s'il n'y avait pas ces artistes, on n'aura pas une raison d'accueillir. Après, en effet, on ne fait pas vraiment des appels, on fait de temps en temps des appels, mais ce sont des appels très francs. On ne veut pas lancer des appels quand on sait plus ou moins ce qu'on va faire. Il y a une ligne directive très claire, en tous les cas pour nous. Je crois que les gens qui nous suivent voient aussi la logique derrière ce qu'on fait. On est quand même très, très divers dans la programmation, que ce soit de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, les arts visuels. Il y a vraiment quelque chose d'assez vaste. Donc, il y a des artistes qui viennent vers nous qu'on ne connaît pas. On est toujours à la découverte d'artistes qu'on ne connaît pas et artistes avec des nouvelles productions qu'on connaît depuis longue date. Bertrand Lamarche, par exemple, on a montré son travail, une exposition solo avec la galerie Poggi en 2015 peut-être. Et là, on suit son travail. Il est venu régulièement en résidence. Et là, une exposition cet automne à Paris. Et on essaie tous les artistes. Il y a combien d'artistes qui sont passés par ici? 500, 600 artistes. Ils savent qu'on suit le mieux qu'on peut à deux. Et puis Pauline, justement, vous avez parlé de Pauline Burnier, notre chargée de mission avec un S. On était ravis de créer son poste en 2019. Donc ça fait 5 ans qu'elle travaille à côté de nous, même plus, parce que c'était notre stagiaire. Et quand elle m'a téléphoné, je dis, j'ai pas le temps pour un stagiaire, je suis désolée, mais il y avait quelque chose. Donc il y a beaucoup de... Oui, d'instinct, je crois, dans ce qu'on fait.
Donc, on vient de rejoindre Pauline Burnier, qui est la salariée de l'association au Moulin de Paillard, que Shelley vient de présenter. Bonjour, Pauline.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les missions que tu fais au sein de l'association, sur lesquelles tu travailles plus amplement? Shelley a présenté un peu le tableau général de ce que vous faites dans l'association, mais... Et la manière dont tu as été recrutée, et voilà. Mais ça, que tu puisses nous expliquer aussi de ton point de vue ce que tu fais.
Très bien. Alors, moi, je suis arrivée au Moulin de Paillard en 2019 à la suite d'un stage, mon stage de Master 2 que j'ai fait à Angers en développement culturel des territoires. J'avais déjà effectué un précédent stage dans un autre moulin de la vallée du Loir et j'ai cherché à orienter ma recherche de mémoire autour de cette thématique-là. Qu'est-ce que deviennent les moulins post- on va dire vie initiale, plus industrielle, voilà. Et j'ai contacté Shelley qui m'a rappelé, j'ai effectué mon stage et au cours de ce stage, je crois que mutuellement on s'est rendu compte que ça marchait bien et qu'on avait envie de poursuivre ensemble. Et donc on a créé mon poste et comme Shelley et James font tout et qu'au cours de mon stage je suis entrée dans cette danse-là, on va dire, on ne m'a pas assignée à un poste précis, on a nommé ce poste chargé de mission avec un S. Et je participe à diverses missions chaque jour, ce qui est très enrichissant déjà d'une part et aussi très agréable parce que je n'ai pas une journée qui se ressemble. Évidemment, d'une année à l'autre, il y a certaines missions qui se réitèrent, on pourrait dire, mais de toute façon, ce n'est jamais les mêmes artistes, ce n'est jamais les mêmes projets. Parfois, on retrouve les mêmes artistes, mais sur d'autres projets. Donc finalement, c'est vraiment voilà, des journées assez riches, assez variées. Je vais participer à la fois à des tâches administratives, de la comptabilité, du suivi de dossiers, des mails, des choses comme ça. Je vais également participer à la médiation auprès des publics. Donc ça peut être auprès des scolaires, comme ça peut être auprès des visiteurs, comme aujourd'hui dans le cadre des Journées du patrimoine. Intervenir en milieu scolaire. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des missions plus logistiques, aller chercher des artistes à la gare, préparer les événements, mettre en place ce qu'il faut pour que et artistes et public soient bien accueillis. Participer également au montage et démontage d'expositions. J'ai appris beaucoup de choses sur les techniques d'encadrement, notamment avec certaines expositions. Donc là aussi, je ne suis pas seulement derrière l'ordinateur, mais j'ai aussi la chance de pouvoir utiliser mes mains autrement, dans des choses plus pratiques. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir jongler justement en extérieur, en intérieur, derrière l'ordinateur, avec ses mains. Voilà, on met en place un jardin de teinture, donc j'ai aussi participé un petit peu à ça. Voilà, là où je peux, je participe. Et voilà, si je peux aider, en tout cas, c'est un plaisir de le faire dans un site qui est extraordinairement beau déjà d'une et entouré de personnes qui sont formidables, Shelley et James, mais aussi tous les artistes, tous les membres de l'association et les publics qu'on reçoit.
Est-ce que tu peux me parler un peu des chantiers en cours et qui viennent?
Eh bien, dans les prochains événements, prochains projets qui se mettent en place, on va poursuivre avec évidemment la culture du jardin de teinture, l'inventaire du patrimoine de la flore, puisqu'on est là aussi pour le patrimoine bâti, mais aussi pour l'environnement et la nature. Notamment, lundi prochain, on accueille une journée intergénérationnelle. On a organisé ça avec des écoliers de Loire-en-Vallée et des résidents d'un EHPAD alentour qui viennent sur la journée pour créer et s'amuser, on va dire, tous ensemble autour justement du jardin de teinture et de la nature. On accueille aussi à la fin du mois la fête de la Voie verte. Et puis après, on va rentrer dans la période hivernale, on va dire, avec le marché de Noël. On va passer sur la programmation de l'année prochaine avec une exposition solo d'un artiste autrichien qui se met en place. Et puis au mois de mars prochain, il y aura la fête du court-métrage. Là, on travaille à nouveau avec des scolaires, mais aussi des associations locales. C'est des projections. En fait, c'est un événement national auquel on participe. Donc on a des séances de projection, des ateliers et activités autour de ça. On va aussi, on a déjà d'ailleurs depuis septembre repris et on va poursuivre ça aussi l'année prochaine, c'est les programmes pédagogiques, les interventions en milieu scolaire. Donc là, ça va des tout petits maternels aux plus grands lycéens et voire au-delà. On va avoir les résidences qui vont reprendre. On en a déjà encore jusqu'à la fin de l'année, mais ça va aussi reprendre quand les températures seront un peu meilleures après l'hiver. Voilà, plein d'événements qui vont se mettre en place, une bonne programmation.
Si les auditeurs et auditrices veulent venir découvrir les moulins de Paillard, Shelley disait qu'il y avait des accueils un peu à l'année et pas du tout que sur l'ouverture des journées du patrimoine. Oui. Cependant, à quel moment on peut venir et où vous contacter pour avoir ce genre d'informations et sur quel support vous diffusez vos informations?
Oui, alors effectivement, on est ouvert là ce week-end pour les journées du patrimoine, mais pas que. On a une plage horaire d'ouverture qui est assez vaste sur l'année. On a donc, quand les expositions sont en route, généralement c'est le vendredi, samedi et dimanche, ou le samedi et dimanche selon la période, sur l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 18-19h. Ensuite, on a des événements précis avec des horaires qui changent évidemment selon le projet. Et pour trouver toutes ces informations, on a un site internet, donc c'est www.moulins-paillard.com. On est également très présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, les Moulins de Paillard. On a une newsletter également à laquelle chacun et chacune peut s'abonner pour recevoir nos informations. Donc là, il s'agit de nous envoyer un mail à contact@moulins-paillard.com et on vous ajoutera dans notre liste de mailing. Et puis, vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06 80 23 25 64.
Donc, informations à retrouver sur le site du Moulin de Paillard, comme tu viens de l'indiquer, et puis vous contacter, voilà, s'il y a des questions, des envies de venir découvrir ce site où j'invite les auditeurs et auditrices à venir se déplacer ici dans la Sarthe à Poncé-sur-le-Loir. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis je te souhaite une bonne journée. Moi je vais aller continuer la visite, découvrir l'exposition Flinch et puis oui, très bonne fin de journée Pauline.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Quand les gens se baladent, j'ai l'habitude de faire la visite avec les jambes.
Je veux bien qu'on explique l'affiche.
Oui, très bien. Là, l'affiche est d'une œuvre, comme souvent le cas, qui n'est pas dans l'exposition. Et là, ça fait vraiment sens quand on pense au thème de notre expo. Donc, Flinch, qui est là, c'est un sursaut. C'est aussi le verbe sursauter. Et c'est le cinquième volet de notre anthologie de l'éternement de Fred Ott. Donc, les gens de l'art contemporain ne connaissent pas forcément Fred Ott. C'est pas quelqu'un de très connu, mais c'est quelqu'un qui était immortalisé dans les laboratoires, dans le Black Maria à New Jersey. C'était l'atelier d'Edison. Et là, on a mis Monsieur Ott devant la caméra. On est en fin 19e. Il a mis un peu de tabac dans le nez pour éternuer. Et ça, ils ont filmé. Donc, ce qui est censé être un geste qu'on ne remarque pas, un geste d'une fraction de seconde, qui n'a pas de durée, dure depuis plus de 100 ans maintenant. Donc, l'anthologie, on a commencé avec les films de Richard Sarra, une exposition en 2014, je crois, ici. Et moi, je viens de la scène, James vient des Beaux-Arts. Et là, il y a beaucoup de conversations qu'on a par rapport à comment on reçoit une œuvre. Et c'est vrai que quand on vient de la scène, on a une durée imposée où on a du temps pour vous convaincre, pour vous faire entrer dans notre univers. Or, pour les arts visuels, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, je crois qu'à l'intérieur de cette fraction de seconde où tout peut se passer, le flinch, on entre dans l'idée de l'exposition. Dans ça, vous allez entendre aussi parler de le gnomon, qui est un style, une figure de style littéraire qu'on va voir dans le travail de James Joyce, par exemple, avec les gens de Dublin, où on évoque quelque chose qui n'est pas là. Et cette présence de l'absent est le gnomon. Et avec le travail de Anne Kawara, c'est l'absent qui est présent. Entrez.
C'était quoi, non, ici?
Donc c'était une papeterie pendant 250
ans. Mais cet endroit-là précisément ?
Là, on ne sait pas exactement où chaque pièce il y avait des choses, mais là, vous allez entrer dans le théâtre où il y avait la grande machine à la tagliatelle
pour
le papier.
Oui.
Et après, les gens nous parlent surtout des 25 ans de la poterie, où ici, c'était l'endroit où il tournait.
Oui, oui.
Mais quand on est arrivé ici, il y avait des faux plafonds, un peu comme un bureau d'assurance, que gentiment on a enlevé pour exposer les voûtes. Voilà, donc cet espace, c'est Walid Rad qui a cofondé la Fondation Arabe pour l'image. Et donc là, il travaille énormément les archives. Il habite au Canada depuis un moment. Walid a récupéré des archives de la veuve de Dr. Fakhouri, qui était professeur à Beyrouth pendant les années de guerre. Et pendant ces années de guerre, les dimanches, les professeurs d'histoire se réunissaient à l'hippodrome. Mais non pas pour parier sur les chevaux. Ils ont parié sur le ratage de la photo finish. Donc ils se sont mis derrière le photographe. C'était analogue on dit, à l'époque. Donc forcément, ça allait jamais être précis. Et vous voyez les paris? Pour combien de fractions de seconde c'est avant ou après la ligne d'arrivée? Donc là, il y a donc Walid qui a ajouté les notations de Dr. Fakhouri. Et Dr. Fakhouri avait vraiment un sens du humour. Est-ce que j'ai mes lunettes? Là, par exemple, on lit à... c'est clair qu'il a vu trop le jockey, je crois qu'il parle de ça. Mais avec les femmes, il était plutôt timide. Donc il y a vraiment des commentaires... vraiment très drôle. Et là, dans cette œuvre qui parle des fractions de seconde, là, pour moi, c'est le point de départ de cette exposition qui est... D'habitude, on fait nos commissariats ensemble. Bien que je reconnais notre couple dans l'expo, je dirais que c'est vraiment une exposition de James. Il a choisi les œuvres. Donc, ce que je vais dire, il va dire « Non, c'est pas ça ». Mais pour moi, on commence par cette œuvre parce que dans ces fractions de seconde, donc, on a la ligne d'arrivée. Et dans cette ligne d'arrivée, il y a les points d'une ligne. Et évidemment, si une ligne est une série des points, et entre deux points, il y a l'infini. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer le théâtre de la feuille infinie. Évidemment, on joue beaucoup avec l'infini, nous. C'est une passion, c'est un cours après l'horizon. Si on est dans un lieu pareil, c'est pour faire durer ce que n'est pas censé durer. Et donc, c'est Flinch. Et dans ces fractions de secondes qu'on essaie d'étaler pour avoir plus de temps et plus d'espace, tout peut changer. Donc Flinch, c'est comme un basculement. Mais aujourd'hui, quand on parle de basculement, c'est souvent vers le bas, évidemment avec le climat et tout ça. Mais on peut imaginer aussi un basculement vers le positif. Le moment où il y a le soleil qui transperce une nuage, c'est un basculement aussi. Donc comment faire pour agrandir ces espaces. Et puis dans cette ligne d'arrivée, si on continue sur cette idée, quand on regarde des courses à un hippodrome ou ici le 24 heures du Mans, quand on regarde une course, c'est souvent les 10 derniers mètres ou les 100 derniers mètres où le temps est autre. Même si la personne ou le cheval va au même tempo, on a l'impression que le temps se dilate parce qu'on est dans l'anticipation, dans l'attente. Et là encore, dans ce temps qui se dilate, tout peut arriver. Donc là, j'ai parlé de gnomène et la figure de style littéraire. Si je fais ça, vous voyez mes deux points et vous voyez la ligne. Mais la ligne n'est pas là, c'est juste suggéré, mais vous le voyez tout de même. Donc dans cette invisibilité, réagit Béatrice Balcou. Béatrice Balcou, qui est une artiste française qui habite Bruxelles. C'est le seul artiste qui n'est pas représenté par une galerie, il me semble, oui. Béatrice, on avait montré son travail, je ne me souviens plus de quelle année, mais on savait qu'elle avait vraiment un regard très intéressant sur la façon de rendre hommage aux artistes. Là, elle fait beaucoup de performances, des cérémonies. Et là, on a une série de 8 simèzes qu'elle appelle les pièces assistantes. Donc évidemment, ce sont des simèzes bien travaillées et elles sont trop faibles pour tenir, pour accrocher quelque chose dessus. Mais si on imagine le simèze, c'est l'invisible et ça travaille dans l'interstice encore. Là, chaque pièce est un hommage à une artiste femme de Bauhaus.
Parce...
Ah, là, on a le livret, je vais vous dire les textes. Alma Sedov Boucher, Marianne Brandt, Eileen Gray, Benita Koch-Ott, que je ne connais pas, Fredel Dicker-Brandeis, Oti Berger, Lucia Morolinaghi et Lily Reich. Donc encore, comment assister quelque chose, une œuvre qui est invisible, en effet, parce que l'histoire a fait qu'on parle plutôt des hommes.
Ouais.
Même si Joseph était très chouette avec Annie.
On ne parlait plus, ce n'est plus exact aujourd'hui.
C'est très bien, c'est très bien. Donc là, vous connaissez le travail de Francis Alice, peut-être pas cette vidéo-là, mais ça s'appelle « Game Over ». Donc, en mars 2011, il a quitté Mexico City avec sa coccinelle pour aller à 1200 km vers le nord. Et puis, il est entré directement dans un arbre, dans le jardin botanique. Et la nature prendra le relais. Et d'après ce que j'ai lu, un an après, la voiture restait là, avec un arbre qui poussait dedans. Et les animaux qui ont trouvé refuge à l'intérieur. Donc, comme je dis, on travaille beaucoup avec les enfants et comme l'écologie est importante et quand on prend de la nature, on dit merci à la nature, on demande d'abord, etc. Je vais préciser que déjà la coccinelle était très très vieille et Francis a gentiment protégé l'arbre quand même. Donc là, c'est l'œuvre de sa citadine, The Green Ray, le rayon vert. C'est aussi le sujet de la conférence de tout à l'heure sur le patrimoine maritime. Regardez bien pour voir si vous voyez l'émeraude. Donc Tacite, qui est connu pour ses recherches météorologiques avec les nuages, avec les éclipses solaires, elle est allée à Madagascar avec l'intention de filmer le rayon vert. Donc le rayon vert, pour ceux qui ont lu le roman de Jules Verne, ou peut-être vous avez vu un film de The Green Ray de Eric Rohmer, ou peut-être juste vous avez déjà vu le rayon vert, il y a des personnes qui cherchent désespérément ce rayon qui arrive au coucher du soleil, quand le soleil et la mer se rencontrent. Et je dirais 50% des gens qui viennent voient et 50% ne voient pas. Tacite n'a pas vu. Elle était un peu dégoûtée parce qu'elle était allée à Madagascar pour le filmer et elle n'a rien vu. Puis elle a fait développer le film tout de même et en recevant la pellicule développée, elle a vu que la caméra a vu ce que son œil n'a pas pu voir. Et donc du coup... Et évidemment, pour ceux qui aiment courir après l'horizon, c'est un film parfait pour nous. On n'attendait pas du tout que Tacite dise oui. Et donc, on a acheté un petit livre, un peu dans le même esprit de travail en Kawara, en disant, bon, si on ne peut pas avoir l'œuvre, on aura un livret pour faire clin d'œil. Mais dans le livre, donc on reçoit le livre et on ne voit pas du tout le rayon vert. La plupart des gens attendent que ce soit une ligne comme ça plutôt qu'une projection. Mais voilà. Donc, comme toujours, il y a soit une salle, soit une table avec des livres qui sont des livres d'artistes ou des livres qui ont inspiré l'expo. Pourquoi on a découvert dans la recherche pour l'expo.
Regarde. Guggenheim, c'est ça.
Il est en plusieurs couleurs.
Ça, c'est rouge. Oui, nous, on a les quatre couleurs. Il est noir, jaune, rouge. Bleu,
rouge.
Ah, parce qu'on l'a trouvé sur
le. Et ça, c'est le rouge. Donc, voilà. D'accord.
C'est super. Ça nous fait du bien.
Et en regardant cette idée de comment garder l'éphémère, est-ce que vous connaissez les éphémères?
C'est beau, hein.
Donc là, une fois par an, en le mois d'août, arrivent les éphémères qui vivent, qui volent en tous les cas une nuit. Et puis on va dans l'atelier de James, on ne sait jamais quelle date ça va arriver. Et le matin, il y a de la neige. Donc cette fois-ci, pour cette exposition, je ne voyais pas James pendant quelques jours, en fin août. Et puis on m'a fait « Regarde !» Tu étais en train de prendre avec chaque éphémère pour les glisser sous... Les papiers dedans, et il y a des années, un antiquaire a donné à James du papier ancien, juste pour James, et à l'intérieur il y avait quelques dessins, et ce mot restait en tête. Et puis vous avez compris, on est assez joyciens, notre chat s'appelle Bloom, on aime James Joyce, et moi je connaissais le terme comme une figure de style littéraire, mais James a dit, ça me dit quelque chose. Donc là on a des cadrans solaires avec le gnomini, qui est la mesure du soleil. Et qu'est-ce qu'on est en train de mesurer de nouveau? Une ligne qui est d'une invisibilité. On évoque quelque chose qui est absent, parce que c'est l'ombre qu'on mesure. Donc James a ajouté ça dans l'exposition pour faire un peu le... Et donc du rayon vert, on a Fata Morgana. Donc, Fata Morgana, c'est de 1971, un film de Werner Herzog. La Fata Morgana, c'est le Fée Morgane. Et le Fée Morgane, c'était le demi-sœur, je crois, de King Arthur, de Arthur. Donc, c'est dans les histoires arthuriennes. Et elle était un peu maléfique. Mais aujourd'hui, quand on parle de Fata Morgana sur la mer, ce sont des marins qui voient des mirages. Un peu comme ce que tu vois là, qui était filmé dans le Sahara. Et donc, c'était un peu une road movie que Werner Herzog a fait. Mais on a ces mirages par moment. Il y a le premier plan, c'est un avion qui s'atterrit. Mais c'est au moins, je ne sais pas, 15, 20 fois, on le voit. Donc, le Fata Morgana, on a eu une expérience de Fata Morgana nous-mêmes sur notre petite rivière. C'était notre anniversaire de mariage, on avait des gens de textile électronique et on a pris à minuit le canoë de nous deux. Il n'y avait pas de lune, mais il y avait plein d'étoiles. Et donc les étoiles dans la rivière. Et au bout d'un moment, j'avais juste un verre dans le nez, donc ce n'était pas du tout... Et je fais, mais James, on vole. Et lui derrière, qui faisait tout le travail, il a dit, je le sens aussi. Comme on n'avait pas de repère et d'avoir les étoiles là, on a passé toute la balade comme si on volait. C'était incroyable. Donc c'est ce phénomène d'avoir, comme le Hollandais volant, d'avoir un navire dans le ciel. Donc le film, c'est 70 minutes à peu près.
Voici la première nouvelle. Il n'y avait ni animal, ni oiseau, poisson, crabe, arbre, pierre, gouffre, ravin, taillis, ni buisson. Seul le ciel était là, unique.
Là, c'est l'œuvre de Katinka Bock,
couler un tas de pierres. C'est un film de 2007, filmé en Super 8, qui a été transféré en vidéo. C'est un court-métrage, mais qui va toujours avec cette idée de l'inévitable, comme pour Francis. On sait ce que va se passer. On sait que le soleil va coucher dans le rayon vert. Là, on sait ce que va se passer, et vous allez comprendre pourquoi. Et tout de même, on est dans l'attente de l'instant même quand ça arrive, qui rejoint bien sûr les propos de Werner Herzog. Donc là, on est, comme j'ai dit, Sugar Water de Eric Baudelaire. Pardon. C'est aussi un film qui dure à peu près 70 minutes, un film de 2007 aussi. Et on peut arriver à n'importe quel moment dans ce film, le geste de l'affichiste est assez incroyable. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, qui ne sont jamais allés à Paris, il n'y a pas de porte Air One. Air One, c'est un livre qu'on lisait, nous, aux States, de Samuel Butler, de 1858 peut-être. Et Air One, c'est une histoire d'une sorte d'utopie, mais une utopie mal tournée. Tout simplement, vous avez Nowhere. Et là, on parle de Nowhere, mais ce n'est pas que Nowhere, c'est aussi Here, Now. Donc, on est dans cet instant présent qui se prolonge ou pas. Et dans le livre de Butler, dans ce fausse utopie, il y a une partie, il y a trois chapitres, il me semble, qui sont sur l'âge de machine. Butler se méfiait sur les machines, parce qu'on était dans l'âge industriel. Donc, il y avait la possibilité que les machines prennent le dessus. Et dans le livre, il parle des malheurs qui peuvent arriver avec l'arrivée de la machine. Donc, je vous laisse regarder le temps que vous voulez les films. Si vous avez des questions, comme ça, vous pouvez. Pour les amis qui me connaissent depuis un moment, Marine qui vient de me rencontrer, mais je crois que tu as compris, je suis quelqu'un de théâtre et je ne suis pas météorologue. Mais le département de la Sarthe m'a demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire cette année pour les journées de patrimoine? Parce que chaque année, je propose quelque chose pour le programme. Et donc, j'ai demandé, mais c'est le patrimoine maritime. Et on est en Sarthe. Donc, dites-moi comment je vais faire, parce que... On est d'accord. J'ai le Loire, d'accord, on prend le canoë, mais... Tout de même, donc, j'ai réfléchi un peu. Et en pensant à l'exposition, et quelque chose de logique, parce qu'on peut aussi tirer par les cheveux et trouver quelque chose, mais tout était dans l'expo. On a deux œuvres qui sont autour des phénomènes à la mer. Et ça, ce n'est pas un hasard. Si vous comprenez le concept de la pièce, de cette exposition, on est vraiment sur des choses qui sont des instantanées. Flic, c'est un sursaut. C'est une fraction de seconde. Donc là, ce n'est pas par hasard tout de même qu'on a le rayon vert et Fata Morgana, deux phénomènes qui viennent de la mer ou qu'on cherche souvent quand on est au large. Ou c'est un peu différent, peut-être ma conférence, c'est que je ne suis pas spécialiste, je suis artiste et je fais le commissariat, la direction avec James E.C. Donc, je n'aime pas, même pour les sujets que je connais bien, je n'aime pas être l'érudite qui va vous expliquer les choses que peut-être vous connaissez mieux que moi. Donc du coup, selon vos expériences, peut-être je vais vous poser des questions sans savoir si vous avez ou pas des réponses. N'hésitez pas à partager vos expériences. Donc on a le rayon vert et Fata Morgana. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui avaient déjà vu le rayon vert en vrai?
Oui. La Bretagne ou ailleurs, donc soyez sur couche, t'as vraiment un moment où c'est pas trop ce que c'est rayon vert.
Vous savez que dans le film, là, alors je sais pas si on voit mieux que la réalité ou pas, parce que dans le film, c'est pas forcément la réalité. Et dans le film, on voit, enfin, moi j'ai vu très distinctement, quand le soleil se réduit, à la fin il ne reste plus qu'un point, et ce point devient vert.
C'est exactement ce que je vois aussi.
Mais au bord de la mer, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est ce phénomène-là, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, le rayon vert n'apparaît que 8 minutes après le coucher du soleil. Parce qu'entre le moment où on voit le coucher du soleil et le moment où le rayon arrive vers nous, il s'écoule le temps de la lumière entre le soleil et la Terre. Le rayon vert qu'on voit, il a lieu une minute avant.
Donc la lumière voyage, cette lumière blanche, dans une ligne droite. Mais elle rencontre trois choses qui peuvent changer la couleur. Et ça peut être reflété, comme dans un miroir. Ça peut être plié, comme dans un prisme. Ou ça peut être dispersé, qui est le cas pour la lumière qui rend bleu le ciel. Les molécules dans les gaz de l'atmosphère le dispersent. Ou on appelle ça le scattering en anglais. Donc, pshh. Et avant d'aller voir la rayon vert, je réponds Shakespeare avec mon meilleur accent shakespearien. Et on reprend les mots de Puck du songe de nuit d'été. Spectacle sans substance, illusoire et changeant, que ne suit nul vestige en son cours d'un moment, car nous sommes tous faits de l'étoffe d'un rêve. Notre courte existence en un sommeil s'achève.
Merci.
Merci. Mais merci à vous.
Merci.
C'était très frais comme vous avez senti. Mais on essaie de faire des petites choses comme ça aussi pour avoir des moments d'échange. Surtout, c'est tout ce qu'on fait là, c'est d'avoir un prétexte pour échanger.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. Nous venons de passer la journée au Moulin de Paillard, lieu et association, à la fois lieu de patrimoine et accueil d'expositions d'art contemporain. Après avoir discuté avec Shelley De Vito, qui nous a présenté l'histoire de ce lieu et la création de l'association, nous avons visité l'exposition Flinch, qui présente le travail de Francis Alice, Béatrice Balcou, Éric Baudelaire, Katinka Bock, Tacitadine, Werner Herzog et Walid Rad. Nous avons terminé la journée par une conférence qui avait pour thématique « À travers les yeux des vieux loups de mer » dont vous avez pu écouter un passage. Je remercie Shelley De Vito, James Porter et Pauline Burnier pour leur accueil après cette superbe journée du patrimoine passée au Moulin de Paillard. Une journée riche en découvertes. J'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir ce lieu situé en Sarthe à Poncé-le-Loir. Un lieu à l'écoute de la nature et de l'art contemporain. Cette émission a été produite par l'association Already Made, réalisée par Marine Combe. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. On se retrouve à la prochaine émission de Ceci n'est pas une pipe pour continuer de regarder avec les oreilles.